C'était il y a 6 semaines, un mardi matin très tôt, bien avant l'heure de votre visite, et lorsque je le vis entrer, je sentis qu'il avait quelque chose de peu ordinaire à me dire. Il ne marchait pas sur la pointe des pieds, embarrassé et bredouillant, comme tous mes autres visiteurs. Il entra fort, décidé, souriant, s'approcha à grands pas de mon lit, me regarda de ses yeux brillants et dit « William, mon vieux, c'est parfait. Vous êtes exactement ce qu'il me faut. » Je dois peut-être vous apprendre que, bien que John Landy ne soit jamais venu chez nous et que vous l'ayez vu rarement, sinon jamais, nous sommes amis depuis 9 ans au moins. Certes, je suis avant tout professeur de philosophie, mais comme vous le savez, il m'est également arrivé de patauger dans la psychologie un bon moment. C'est pourquoi les préoccupations de Landy ne sont pas étrangères aux miennes. C'est un remarquable neurochirurgien, un des meilleurs. Récemment encore, il a eu la gentillesse de me laisser étudier les résultats de quelques-uns de ses travaux, surtout les divers effets de lobectomie préfrontale sur quelques types de psychopathes. Donc, vous voyez que lorsqu'il a surgi dans ma chambre ce mardi matin, nous n'étions nullement des inconnus l'un pour l'autre. « Écoutez, dit-il, approchant une chaise de mon lit, dans quelques semaines, vous serez mort, vrai ?» Venant de Landy, la question n'avait rien de brutal. D'une certaine manière, il était même réconfortant de voir quelqu'un d'assez courageux pour aborder le sujet défendu. « Vous allez mourir ici, dans cette chambre, puis on vous emmènera pour vous incinérer. »« M'enterrer, dis-je. C'est encore pire, et ensuite, pensez-vous aller au ciel ?»«
J'en doute, dis-je. Il serait pourtant agréable d'y croire.
Ou en enfer, peut-être ? Je ne vois vraiment pas pourquoi on m'y enverrait. On ne sait jamais, mon cher William.
Pourquoi parler de tout cela ?
Eh bien, dit-il sans me quitter des yeux, c'est que, personnellement, je ne crois pas que vous puissiez jamais entendre parler de vous après votre mort. À moins que...
Il s'arrêta, sourit et se pencha plus près. « À moins que vous ayez le bon sens de vous remettre entre mes mains,
pourriez-vous envisager d'examiner une proposition ?»
Vu la façon dont il me fixait, me jaugeait, me prenait à partie avec une sorte de violence, j'aurais pu me croire un morceau de bœuf de première qualité qu'il venait d'acheter et qui, posé sur le comptoir, attendait d'être enveloppé.
« Je ne plaisante pas, William. Pourriez-vous examiner une proposition ?»«
Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. »«
Je vais justement vous le dire. M'écouterez-vous ?»« Je veux bien, allez-y, si vous y tenez, au point où j'en suis, je n'ai rien à y perdre. »« Au contraire, vous y gagnez beaucoup. Vous y gagnerez, surtout après votre mort. »
À ces mots, il s'attendait sans aucun doute à me voir sursauter, mais... Pour je ne sais quelle raison, je n'éprouvais pas de réelle surprise. Je demeurais allongé, calme et immobile, sans cesser de regarder son visage où un sourire narquois retroussait lentement le coin gauche de la lèvre supérieure, découvrant quelques dents en or.
La chose qui nous intéresse ici, William, j'y ai travaillé pendant des années. En collaboration avec quelques collègues, surtout avec Morrison, j'ai réussi une série d'expériences sur des cobayes. Je suis maintenant en état de pouvoir expérimenter sur un être humain. C'est une grande idée. À première vue, elle peut paraître insolite, j'en conviens, mais au point de vue chirurgical, rien ne semble s'opposer à ce qu'elle soit praticable.
Landy se pencha plus avant et posa ses deux mains sur le bord de mon lit. Il avait une bonne tête, une belle tête, tout en os, et son regard n'était pas celui d'un médecin ordinaire. Vous savez, ce regard qu'ils ont presque tous, et d'où jaillit un petit éclair électrique qui veut dire « Je suis le seul à pouvoir vous sauver ».
Les yeux de Landy étaient vastes et vivants, pleins d'étincelles animées. « Il y a longtemps déjà, dit-il, j'ai vu un film. » Un court-métrage importé de Russie, c'était plutôt macabre, mais fort intéressant. On y voyait la tête d'un chien complètement séparé du corps, mais le sang continuait à circuler normalement par les veines et les artères à l'aide d'un cœur artificiel. Eh bien voilà, cette tête de chien sans corps, posée sur une espèce de plateau, était vivante. Le cerveau fonctionnait, plusieurs expériences le prouvaient,
Par exemple, quand on barbouillait le museau du chien de nourriture, la langue sortait pour la lécher, et les yeux suivaient une personne qui se déplaçait dans la pièce. Il en résultait donc logiquement que la tête et le cerveau n'ont pas besoin d'être reliés au corps pour rester en vie, pourvu évidemment qu'une provision de sang correctement oxygénée puisse être maintenue en circulation. C'est ce film qui m'avait donné l'idée de retirer le cerveau d'un crâne humain et de le garder vivant et en parfait état de fonctionnement comme une unité indépendante et pour un temps illimité après la mort de l'homme. Votre cerveau, par exemple, après votre mort.
Cette idée me déplaît, dis-je. Ne m'interrompez pas, William, laissez-moi terminer. Toutes les expériences précédentes prouvent que le cerveau est un organe qui s'entretient remarquablement lui-même. Il sécrète son propre liquide cérébrospinal, les processus magiques de la pensée et de la mémoire qui prennent naissance à l'intérieur ne sont manifestement pas compromis par l'absence des membranes ou du coffre ou même du crâne, pourvu que, comme je le disais, vous ayez soin de l'alimenter suffisamment en sang oxygéné, dans des conditions naturelles. Mon cher William, pensez un peu à votre cerveau. Il est en parfait état. Il est empli de ce que vous avez passé une vie à apprendre. De longues années de travail ont été nécessaires pour en faire ce qu'il est, et il commence seulement à fournir des idées originales de premier ordre. Doit-on le laisser mourir ? Avec le reste de votre corps ? Tout simplement parce que votre sale petit pancréas est pourri par le cancer ?
« Non, merci, lui ai-je dit alors. Cela suffit. Cette idée me répugne. Et même si vous pouviez la réaliser, ce qui me paraît douteux, ce serait sans aucune utilité. À quoi bon garder mon cerveau vivant si je ne peux ni parler, ni voir, ni entendre, ni sentir? Pour ma part, je ne puis rien imaginer de plus affreux. »«
Je crois que vous seriez capable de communiquer avec nous, dit Lundy. » Et nous pourrions même parvenir à vous donner une part de vision, mais n'allons pas trop vite, j'y reviendrai plus tard. Partons du fait que vous allez mourir, bientôt, quoi qu'il arrive, et je n'ai aucunement l'intention de vous toucher avant que vous soyez mort. Allons, William. Aucun véritable philosophe ne peut refuser de léguer son corps à la science.
Quelque chose dans vos propos me semble manquer de précision. « Répondis-je. Il me semble qu'il subsiste un doute sur mon état de mort ou de vivant quand vous en aurez fini avec moi. »«
Eh bien, » dit-il avec un petit sourire, « je crois que vous avez raison, mais vous ne devriez pas discuter sur ce point avant d'en savoir un peu plus long. »«
Je refuse d'en entendre parler davantage, je vous l'ai déjà dit. »«
Prenez une cigarette, » dit-il en me présentant son étui.
« Je ne fume pas, vous le savez bien. »
Lui-même en alluma une, avec un petit briquet en argent, pas plus grand qu'une pièce d'un shilling. « Un cadeau des gens qui me fabriquent mes instruments, dit-il. C'est ingénieux, n'est-ce pas ?» J'examinai le briquet, puis le lui rendis. « Je continue ? » demanda-t-il.
« Je n'y tiens pas du tout. »
« Pas d'histoire, restez tranquille et écoutez. Je suis sûr que vous finirez par vous y intéresser beaucoup. »
Il y avait un peu de raisin noir sur un plat près de mon lit. Je posai le plat sur ma poitrine et me mis à manger le raisin.
« Au moment même de la mort, dit Lundy, je devrais être près de vous pour pouvoir intervenir aussitôt afin de faire le nécessaire pour garder votre cerveau vivant. »«
Vous voulez dire vivant dans la tête ?»«
Pour commencer, oui. C'est indispensable. »«
Et où le mettriez-vous ensuite ?»
Si vous désirez le savoir, dans une sorte de cuvette.
Vous parlez sérieusement ?
Mais certainement, je n'ai jamais été plus sérieux.
Bon, continuez.
Je suppose que vous savez que lorsque le cœur s'arrête et que le cerveau est privé de sang frais et d'oxygène, ses tissus meurent très vite, en 4 à 6 minutes environ. Même au bout de 3 minutes, ils peuvent s'abîmer. Aussi dois-je intervenir très rapidement pour éviter cela. Mais à l'aide de la machine, tout devrait être très simple.
Quelle machine ?
Le cœur artificiel. Nous avons reproduit ici l'original conçu par Alexis Carrel et Lindbergh. Il oxygène le sang, conserve sa température et sa tension normale et ainsi de suite. Ce n'est pas compliqué du tout.
Dites-moi ce que vous feriez au moment de la mort,
dis-je.
Par quoi commenceriez-vous ?
Avez-vous des notions du système vasculaire du cerveau ?
Non.
Alors écoutez-moi, ce n'est pas difficile. Le sang est fourni au cerveau par deux sources principales. Les artères carotides internes et les artères cérébrales. Il y en a deux de chacune. Ça fait quatre artères en tout, compris ?
Oui.
Quant au système de retour, il est plus simple encore. Le sang est emmené par deux grandes veines seulement, les jugulaires internes. Donc, vous avez quatre artères qui montent, le long du cou, naturellement, et deux veines qui descendent. À la hauteur du cerveau, elles se divisent naturellement en d'autres canaux.
Mais cela ne nous concerne plus. Nous n'y touchons jamais.
Bon, dis-je. Imaginez que je viens de mourir. Qu'allez-vous faire ?
Je vous ouvre immédiatement le cou et je localise les quatre artères. Dans chacune, je plante une grosse aiguille creuse. Ces quatre aiguilles sont reliées par des tubes au corps artificiel. Puis, je me hâte de sectionner simultanément les veines jugulaires internes gauche et droite et je les relie également au cœur artificiel pour compléter le circuit. Ensuite, nous mettons en marche la machine qui contient déjà une quantité du type de sang nécessaire. Et vous voilà prêt. Le fonctionnement de votre cerveau est rétabli.
Je serai comme ce chien russe ?
Je ne le pense pas. C'est que vous aurez certainement perdu conscience en mourant, et je doute fort que vous reveniez à vous avant un très long temps, si toutefois vous y revenez jamais. Mais conscient ou non, avouez que vous serez dans une situation plutôt intéressante, n'est-ce pas ? Vous aurez un corps mort, froid et un cerveau vivant.
Landy se tut pour savourer cette délicieuse perspective. Il était si enthousiasmé par cette idée que, de toute évidence, il ne lui venait même pas à l'esprit que je puisse ne pas partager ses sentiments.
« Après quoi, nous pourrions nous permettre de prendre notre temps, » poursuivit-il. « Et croyez-moi, nous en aurions besoin. La première chose à faire serait alors de vous transporter à la salle d'opération, accompagné naturellement de la machine qui ne doit jamais vous quitter. Le problème suivant... »«
Bon, dis-je, cela suffit, je ne cherche pas à connaître les détails. »«
Mais si, vous devez les connaître. Vous ne devez pas ignorer ce qui vous arrivera au cours de l'opération. » Car vous savez par la suite, quand vous aurez repris conscience, il sera beaucoup plus rassurant pour vous de pouvoir vous rappeler où vous êtes et comment vous y êtes venu. Vous devez le savoir, ne serait-ce que pour la paix de votre esprit, d'accord ?
Je ne bougeais pas.
Donc le problème suivant serait de retirer votre cerveau intact et sans dommage de votre corps inerte.
Le corps est inutile. En fait, il a déjà commencé à pourrir.
Le crâne et la figure sont également hors d'usage. Ils sont tous deux encombrants et personne n'en voudra plus.
Tout ce que je voudrais, c'est le cerveau.
Le beau cerveau, propre, vivant, parfait. Alors quand vous serez sur la table, je prendrai une scie, une petite scie mécanique, et je ferai ainsi sauter toute la boîte crânienne. Comme vous serez encore complètement inconscient, l'anesthésie sera inutile.
Inutile ? Et qu'en savez-vous ? Dis-je.
Vous serez de bois, William, je vous le promets. N'oubliez pas que vous êtes mort depuis quelques minutes.
On ne me sciera pas le crâne sans anesthésique, lui fis-je remarquer.
Landy haussa les épaules. Pour moi, vous savez, cela ne fait aucune différence. Je veux bien vous donner un peu de procaïne pour vous faire plaisir. Je vous injecterai même de la procaïne plein le crâne en partant du cou pour vous être agréable.
Merci, vous êtes gentil, dis-je.
Vous savez, poursuivit-il, c'est extraordinaire. Les histoires qui arrivent quelquefois.
Tenez, la semaine dernière, on m'amène un type inconscient. Je lui ouvre le crâne, sans aucun anesthésique, pour lui enlever un caillot de sang. Je suis encore en train de fouiller l'intérieur du crâne quand il se réveille et se met à parler. « Où suis-je » fait-il. « À l'hôpital. »« Ah ! Comme c'est drôle !»
Je lui demande si cela l'ennuie, ce que je suis en train de lui faire.
« Non, me dit-il, pas du tout. Que faites-vous au juste ? J'enlève seulement un caillot de sang dans votre cerveau. »
« Un quoi ? Un caillot de sang, ne bougez pas, j'ai presque fini. »
« Alors c'est cette saleté qui me donnait tous ces maux de tête !»
Landy s'arrêta et sourit en se rappelant son histoire. C'est exactement ce qu'il m'a dit, le bonhomme. Vrai, le lendemain, il ne se souvenait même plus de l'incident. C'est un drôle de truc, le cerveau.
vous me donnerez de la procaïne, dis-je. Comme vous voudrez, William.
Où en étions-nous déjà? Ah, bon, je prendrai donc une scie. Et je vous enlèverai soigneusement la boîte crânienne. J'aurai ainsi dégagé la partie supérieure de votre cerveau, c'est-à-dire la méninge extérieure. Je ne sais pas si vous savez qu'un cerveau a trois enveloppes. L'extérieur, appelée durmère, celle du milieu qu'on appelle arachnoïde, et enfin celle de l'intérieur, la pie-mère. Car la plupart des gens ont l'air de croire que le cerveau est une masse nue qui flotte dans un liquide, il n'en est rien. Le cerveau est enveloppé soigneusement dans ses méninges et le liquide cérébrospinal coule dans un petit espace entre les deux méninges internes, connu sous le nom d'espace subarachnoïde, comme je vous l'ai déjà dit. Ce liquide est sécrété par le cerveau et il pénètre le système veineux par osmose. Je vous laisserai vos trois méninges, n'ont-elles pas de jolis noms? Je n'y toucherai pas, il y a à cela plusieurs raisons, la moindre n'étant pas le fait que les canaux veineux parcourent la durmère, drainant le sang vers la jugulaire. Maintenant, poursuivit-il, nous avons enlevé la partie supérieure du crâne et dégagé le haut du cerveau enveloppé dans ses méninges. L'étape suivante, c'est de la finasserie. Il s'agit de libérer tout le paquet, le plus proprement possible, en laissant les bouts des quatre artères et des deux veines pendre par en dessous afin qu'ils puissent être reconnectés à la machine. C'est une opération longue et délicate et qui a pour but d'extirper de nombreux os, de sectionner de nombreux nerfs, de couper et de nouer de nombreux vaisseaux sanguins. Le seul moyen d'avoir quelque espoir de succès serait de prendre un grattoir et d'arracher lentement le reste de votre crâne en l'épluchant comme une orange jusqu'à ce que le cerveau soit entièrement dégagé. Les problèmes soulevés sont strictement techniques et je ne les développerai pas davantage, mais je suis profondément convaincu que ce travail peut être fait. Ce n'est qu'une question de dextérité chirurgicale et de patience. Et n'oubliez pas que j'aurai tout mon temps vu la présence du cœur artificiel qui ne cessera de fournir le sang afin de garder le cerveau en vie. Maintenant, supposons que nous avons réussi à éplucher votre crâne et à dégager le cerveau. Il reste alors relié au corps à la base, principalement par la moelle épinière et par les deux grandes veines et les quatre artères. Alors qu'allons-nous faire ? Je sectionnerai la moelle épinière sous la première vertèbre cervicale en prenant grand soin de ne pas endommager les deux artères cérébrales qui se trouvent dans cette région. Mais n'oubliez pas que la durmère, ou méninge externe, est ouverte à cet endroit pour recevoir la moelle épinière. Je dois donc recoudre les bords de la durmère pour fermer l'ouverture. Là, pas de problème. Puis, c'est la dernière étape. Sur la table, j'aurai un bassin de forme spéciale, contenant ce que nous appelons la solution de Ringer. Alors je libère complètement le cerveau en sectionnant les artères et les veines. Puis, je le prends simplement dans mes mains pour le déposer dans le bassin. Ce serait le seul moment de l'opération où le flux de sang serait interrompu. Mais, une fois dans le bassin, je ne mettrai qu'un instant à relier les artères et les veines au cœur artificiel. Nous y voilà. Votre cerveau est maintenant dans le bassin, il est vivant et rien ne s'oppose à ce qu'il reste vivant pendant de longues années, pourvu que nous surveillions le sang et la machine.
Mais est-ce qu'il fonctionnerait ?
Comment le saurais-je, mon cher William ? Je ne puis même pas vous dire si vous reprendrez jamais conscience.
Et si cela arrivait ?
Alors là, ce serait... fascinant.
Vous croyez ? Dis-je sans trop de conviction.
Mais bien sûr, être là, en possession de toute votre intelligence, de toute votre mémoire.
Et ne pouvoir ni entendre, ni voir, ni sentir, ni parler ? Dis-je.
Tiens, s'écria-t-il. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Je ne vous ai pas encore parlé de l'œil. Écoutez-moi. Je tenterai de laisser l'un de vos nerfs optiques intact, ainsi que l'œil lui-même. C'est tout petit, le nerf optique, l'épaisseur d'un thermomètre. 5 centimètres de long, il relie le cerveau à l'œil. Ce qui est étrange, c'est que ce n'est même pas un nerf. C'est une poche extérieure du cerveau et de la durmère, dont elle suit le contour pour atteindre le globe de l'œil. L'envers de l'œil est ainsi en contact très proche avec le cerveau et le liquide cérébrospinal est à sa portée. Tout cela ne fait que servir ce qui nous intéresse et permet de penser qu'il me serait possible de conserver l'un de vos yeux. J'ai déjà construit une petite capsule en plastique pour y introduire le globe de l'œil. Cette capsule remplacera l'orbite et quand le cerveau sera dans le bassin, baignant dans la solution de Ringer, l'œil dans sa capsule flottera à la surface du liquide.
En regardant fixement le plafond, dis-je ?
Oui, je suppose. Car, faute de muscles, il ne lui sera guère possible de bouger. Mais ce doit être déjà amusant en soi d'être là, confortablement installé dans un bassin, à scruter le monde.
Ça doit être tordant, en effet, dis-je. Et pourquoi pas une oreille pendant que nous y sommes ?
J'aimerais mieux ne pas m'attaquer à l'oreille cette fois-ci.
Je veux une oreille, lui dis-je. J'y tiens absolument.
Impossible.
Je veux écouter du Bach.
Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ce serait difficile.
Dit doucement Lundy. L'appareil auditif est un mécanisme bien plus délicat que l'appareil visuel. De plus, il est encastré dans un os qu'une partie du nerf auditif relie au cerveau. Il me serait impossible de détacher cet ensemble tout en le laissant intact.
Ne pourriez-vous pas le laisser dans son os et transporter l'os dans le bassin ?
Non,
répondit-il avec fermeté.
La chose est déjà assez compliquée comme ça, et de toute manière, si votre œil fonctionne, l'audition n'a pas une telle importance. Nous pourrons communiquer avec vous par des messages écrits. Il faut absolument que vous me laissiez décider de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas.
Je n'ai pas encore donné mon accord.
Je sais, William. Je sais.
Et je suis loin encore d'être familiarisé avec cette idée.
Vous préférez être mort tout à fait ?
Peut-être. Je ne sais pas encore. Je ne pourrai pas parler, n'est-ce pas ?
Bien sûr que non.
Alors, comment communiquerai-je avec vous ? Comment sauriez-vous si je suis conscient ?
Il nous serait facile de le savoir, dit Lundy. Un électroencéphalographe ordinaire pourrait nous le dire. Nous attacherions les électrodes directement aux lobes frontaux de votre cerveau.
Et vous êtes sûr d'y arriver ?
Absolument. Ce travail peut être pratiqué dans n'importe quel hôpital.
Mais moi, je ne pourrais pas communiquer avec vous.
Eh bien, dit Lundy, je crois que vous le pourriez. Il y a à Londres un homme appelé Wertheimer qui a entrepris un travail intéressant sur la communication de la pensée et j'ai pris contact avec lui.
Vous savez certainement qu'un cerveau en action émet des décharges électriques et chimiques. Et que ces décharges sont en forme d'ondes, un peu comme les ondes de radio.
J'en ai entendu parler, dis-je.
Eh bien, ce Wertheimer a mis au point un appareil assez semblable à l'encéphalographe, mais beaucoup plus sensible. Et il affirme que cet appareil lui permet d'interpréter instantanément les pensées d'un cerveau. Il produit une sorte de graphique traduisible, paraît-il, en langage intelligible. Voulez-vous que je demande à Wertheimer de venir vous voir ?
Non, dis-je.
Lundy avait l'air de croire que l'affaire était dans le sac et je lui en voulais. Maintenant, lui dis-je, il vaut mieux que vous me laissiez seul. Vous n'obtiendrez rien en cherchant à me brusquer.
Il se leva aussitôt pour se diriger vers la porte.
Une question, dis-je alors.
Il s'arrêta, la main sur la poignée.
Oui ? William ?
Simplement ceci. Croyez-vous sincèrement que mon cerveau, une fois dans le bassin, fonctionnera exactement comme il le fait à présent ? Le croyez-vous capable de penser et de raisonner comme je le fais moi actuellement ? Et ma mémoire n'en souffrirait-elle pas ?
Je n'ai aucune raison de penser le contraire, répondit-il. C'est le même cerveau, il est vivant, n'est pas abîmé, personne n'y aura touché. Nous n'aurons même pas ouvert la dure mer. Nous aurons seulement, et là est la grande différence, coupé tous les nerfs qui en partaient, à l'exception du nerf optique, ce qui signifie que votre pensée ne sera plus perturbée par les sens. Vous vivrez dans un monde extrêmement limpide et détaché de tout. Rien ne pourra vous gêner, pas même la douleur. Vous serez même incapable d'en éprouver puisque vous n'aurez plus de nerfs pour la transmettre. Dans un sens, ce sera une situation idéale. Pas d'ennui, pas de crainte, pas de douleur physique, ni faim, ni soif, et même aucun désir, rien que votre mémoire et vos pensées. Et si l'œil qui vous reste est en bon état, rien ne vous empêchera de lire des livres. Tout cela me paraît plutôt agréable.
Vraiment ?
Vraiment, William, et surtout pour un philosophe.
Ce serait une expérience passionnante. Vous pourriez méditer sur tous les problèmes du monde avec un détachement et une sérénité jamais atteints auparavant par aucun homme. Et qui sait, vous pourriez avoir de grandes pensées, trouver des solutions idéales, des idées de génie qui révolutionneraient notre façon de vivre. Essayez donc d'imaginer le degré de concentration que vous seriez capable d'atteindre.
Et la frustration, dis-je ?
C'est insensé, il n'y aurait pas de frustration. Vous ne pouvez ressentir de frustration sans désir, et vous n'éprouverez aucun désir physique en tout cas.
Je pourrais me souvenir de ce que fut ma vie, et désirer y revenir.
Revenir dans cette saloperie ? Sortir de votre bassin douillé pour revenir dans ce bordel ?
Une autre question, dis-je. Combien de temps pensez-vous pouvoir... le maintenir vivant ?
Le cerveau ? Qui sait ? Pour de très nombreuses années, peut-être. Les conditions seraient idéales grâce au cœur artificiel qui supprimerait les principales causes de détérioration. La tension artérielle serait égale constamment, ce qui est impossible dans une vie réelle. La température aussi serait invariable. La composition chimique du sang serait à peu près parfaite. Pas d'impuretés, pas de virus... pas de bactéries, rien. Bien sûr, c'est une idée folle, mais je crois que dans ces conditions, un cerveau pourrait vivre 200 ou 300 ans.
Au revoir, cette fois, dit-il. Je vous quitte, nous nous reverrons demain. Et il partit aussitôt, me laissant dans un état d'esprit que vous imaginerez sans peine.